Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten Régal.
Et la casquette qui sonne, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette qui sonne.
Le multiplex.
Le multiplex, c'est tous les vendredis dans Rotten Régal à 19h. Contrairement à un multiplex classique où on commande des buts, là on donne des infos avec nos correspondants en région. Avec ce soir donc le leader Jean Baumel dans le Nord. Ouais. Salut Djibo.
Salut Jean-Louis, salut Giro, salut Captain. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Son équipe la mieux classée, quatrième, c'est Edouard G. Salut Edouard.
Salut à tous.
Salut
Edouard.
Salut.
Et là on redescend un peu au classement. On va éviter de le regarder, mais Pierre-Yves Leroux est avec nous, notre correspondant l'Ouest. Salut Pierre-Yves.
On ne se moque pas. Salut, bonsoir messieurs.
Non, Rennes est 7ème quand même.
Ça va.
Voilà,
ça
oui,
va
oui, oui. Ouais. Tu, si on regarde toutes là, les équipes de l'Ouest,
il en a tellement.
C'est plutôt la fin de classe.
C'est vrai, hein. C'est vrai.
Ouais, puis t'es gâté, t'as Genesio maintenant, donc là c'est un régal.
Alors là j'ai dû descendre sur mon écran pour aller tout en bas du classement pour accueillir Nicolas Paul Orsi, notre correspondant.
Alors voilà, salut Nico. Salut les gars, salut à tous. Je vois que vous avez remis Julien Landry au frigo.
Oui.
C'est vrai qu'il a pas été très bon la semaine dernière.
En frigo, écoutez, je suis pas sûr qu'il rentre dans le frigo. Mais...
oui, il est
dans une chambre froide.
Ouais. C'est claqué. Alors,
il est plutôt à le vider le frigo.
Avant de commencer nos débats, vous avez eu la bonne info, messieurs, tout à l'heure. Le resto, c'est fait. Hein. Il y aura un resto offert par Jérôme.
Ah. Exactement. Je vous invite.
Je vous invite à chaque et je vous invite, il a dit. Oula,
je vous invite et chacun paiera.
Et chacun paiera sa part.
Moi j'amène le reblochon, tout va bien.
Mais on fait ça où ? À Paris ? Donc faut attendre qu'ils montent à Paris tous ?
Bah oui. Ah bah oui, je vais pas aller faire les.
Ouais, surtout attendre que le restaurant rouvre quand même.
Bah là, il a dit le 15 mai.
Le 15 mai, c'est
il a ses infos. C'est bon. Bon, très bien.
Et sinon, après, on va chez toi alors.
Sinon, on va chez Chalençon, hein, c'est bon, hein, c'est ouvert.
Oui, on peut s'organiser un dîner sinon.
Et
Jean-Michel le connaît parce qu'il y était la semaine dernière.
Bah c'est vrai. N'est-ce pas Jean-Michel ?
On a entré plat dessert.
Ah, j'ai très bien mangé. Très bien mangé. Un peu cher pour ce qu'il y a dans l'assiette, mais très bien mangé.
Excuse-moi Edouard, mais c'est évident entrée plat dessert. Enfin, moi je fais pas un dîner avec tout le monde sans entrée plat dessert.
Vu le gabarit de ceux que j'invite, je peux te dire qu'il y aura même il y aura même l'apéro au départ.
Hein. Ah, bah, ça va te coûter cher en tout cas.
Oui, écoute, c'est avec plaisir.
On n'est pas des petits mangeurs.
Pour Jibo et pour Edouard, c'est fromage et dessert.
Ah oui.
Et c'est moi qui apporte le fromage.
Alors, Julien Landry me dit que son billet de train est prêt.
Ouais.
Déjà pris. Disons, allez. Allez, on y va, messieurs. On débat autour de la 33e journée de Ligue 1. On va commencer donc par Lille, le leader. Est-ce que Galtier est en train d'allumer des contre-feux pour masquer la méforme de certains joueurs, Jibo ?
Bah écoute, hier il a mis un petit coup en conf de presse par rapport à. Bon, on a senti, hein, c'était pas nous les journalistes qui on veut viser, c'était Federic Antonetti, parce que la question qui lui a été posée en ce moment, Lille, Mike Maignan brille, défensivement c'est vrai, c'est la meilleure défense avec seulement 19 buts encaissés. Et il trouvait que c'était un peu réducteur de penser que Lille ne jouait que défensivement, c'est vrai, parce qu'il met toujours des joueurs offensifs, mais il a reconnu que ces derniers temps c'était pas génial. C'est vrai que le match contre Metz, il gagne 2-0, mais franchement, c'était pas terrible. Il y avait eu la défaite contre Nîmes. Voilà, c'est le problème de Lille, on va dire, en deuxième partie de saison. C'est que il y a plus de joueurs qui sont en forme tous en même temps, comme c'était un peu le cas en début de saison. Bamba, a plongé alors qu'il était super bon lors des six premiers mois. Yezice, c'est le montagne russe, hein. Il avait fait une belle coupe d'Europe, de triplé. Arojo, c'était prometteur en début de saison. On ne le voit plus. Heureusement, derrière, Yilmaz lui a pris le relais devant. Après, c'était David quand Yilmaz était blessé. Voilà. J'ai l'impression que Galtier attire un petit peu l'attention vers lui pour que ses joueurs soit tranquille pour cette fin de saison qui s'annonce palpitante. D'ailleurs, il y a un beau tifo fait par les supporters, je vous le lis, c'est rapide. Ce dont nous rêvons, c'est de revoir Lille champion.
Ah, très beau, effectivement.
Ouais.
Alors, il y a des méformes en ce moment.
Oui, on constate de toute façon, après qu'il y ait des méformes, que en effet il y ait certains doutes, qu'il y a la pression d'aller de rentrer dans cette dernière ligne droite où il y a le titre à aller chercher. Ils y pensent forcément, même si Galtier n'a pas dit ouvertement on veut être champion de France, on joue le titre à l'intérieur. Ils en pensent et ça se voit par rapport à leurs prestations.
Ouais.
C'est vrai qu'ils ont eu un coup de moins bien avant la trêve internationale, hein, Djibo, on en parlait avec Djibo, cette défaite contre Nîmes a laissé des traces, que quand tu reviens de cette trêve internationale, il ne faut pas oublier quand même que le calendrier de Lille était loin d'être parfait, aller au Parc des Princes le PSG venait de mettre une belle leçon à Lyon, qui est censée être la deuxième meilleure équipe de France, donc forcément ils sont arrivés sur la pointe des pieds avec une tactique très défensive, mais c'est ce qu'il fallait faire pour battre le PSG, ils ont réussi. Derrière, du mal, en effet le match à Metz n'est pas terrible, mais mais il le gagne quand même à l'arrache, mais il le gagne avec un grand Maignan. Et aujourd'hui, on va lui reprocher d'être un entraîneur défensif. Non, je trouve que les critiques, elles vont trop loin. Il a réussi à l'expliquer. En effet,
il est un peu susceptible quand même.
Mais non, mais c'est normal. Écoute, vu la saison que Lille fait, franchement, Lille était
en. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on dise que c'est une entraîneur?
Non, mais on lui disait déjà à l'époque de Saint-Etienne, donc ça l'énerve. Je crois que c'est un petit relance.
Non, mais ça l'énerve. Ça l'énerve dans un sens, Jean-Louis. C'est normal que ça énerve, alors que c'est pas le cas.
Bah, et que c'est pas grave en fait.
Ben
si
oui,
c'est
mais
pas le cas.
À force de prendre des critiques comme ça, il faut quand même avoir. Alors je dis pas qu'il faut avoir joué au football pour en parler avec Galtier et comprendre Galtier. Mais quand t'es joueur de foot, que tu vis une année qui est exceptionnelle, où t'es moins bien physiquement, et c'est le cas. Djibo nous parlait des joueurs offensifs. En effet, ils sont moins flamboyants. Oui. Les choix de Galtier aussi. Tiens, dans ta tête, tu peux te dire, écoute, là, on va prendre un peu moins de risques. En effet, les résultats tournent toujours pour nous. On a gagné 2 matchs de suite. Et ben, on va essayer de continuer comme ça. Et puis derrière, peut-être qu'on va retrouver les étincelles qui faisaient de nous une équipe très spectaculaire. En tout cas, c'est normal, c'est logique. Parce qu'aujourd'hui, le match, c'est encore une fois, à chaque match, chaque joueur de championnat, on va dire, c'est des tournants. Mais là, aujourd'hui, franchement, s'ils arrivent à battre Montpellier, je vois pas comment on pourra aller les chercher, du moins les autres.
Ça te donne en plus un joker pour aller à Lyon la semaine prochaine.
En plus, Jean-Michel.
Non, mais je j'imagine 2 secondes l'état de stress, d'anxiété, d'espoir, en fait, tout ce qui peut se mélanger dans la tête de Galtier. Donc qu'il soit susceptible, c'est pas le mot qui
je veux dire, il prend la mouche parce qu'on lui dit qu'il a un très bon gardien, ça va.
Et c'est qui convient. Et non, oui, enfin ça veut dire que le reste est nul. Non, il est sur des charbons ardents, c'est terrible. Il a peut-être le titre, son premier gros titre à portée de la main. Moi, je suis pas aussi optimiste que vous. Hein. Je pense que ça va être compliqué jusqu'à la dernière seconde pour Lille.
Ouais, bah, de toute façon, c'est souvent le cas avec des équipes. Quand le championnat est très serré, ça se resserre. Ouais,
ils peuvent pas jouer comme contre Metz les 6 prochains matchs, c'est pas possible.
Ça risque d'être compliqué jusqu'à la dernière seconde.
On est d'accord. Ouais.
Lille, on le rappelle, qui joue ce soir, donc ce sera évidemment sur RMC.
Déjà ce soir, c'est compliqué.
Bah, exactement. On va de l'autre côté du classement. Le bas de tableau, la lutte pour le maintien et le FC Nantes. Pierre-Yves,
Très mal.
Ah, Nantes est très mal, mais le petit motif d'espoir, c'est peut-être le calendrier.
Ben peut-être. Alors on rappelle que c'est Lyon demain, donc là c'est plutôt sur les 5 matchs qui suivent, parce que il y aura Brest, Strasbourg et Dijon à l'extérieur, et les Nantais recevront Bordeaux et Montpellier pour finir. Ça veut dire que ils vont jouer le 14e, le 15e, le 16e, le 20e et le 8e.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça peut être quand même un élément d'espoir après ce match contre Lyon où ça risque d'être compliqué. Et pour vous donner une petite idée sur ces 6 matchs, en comptant Lyon sur les matchs aller, ils avaient pris 6 points. Donc ça suffira très certainement pas. Ils sont toujours sur un rythme finalement d'un point par match s'ils sont sur ce rythme-là. Ce qui embête surtout Antoine Comboiré, même si lui il dit je fais pas de calcul, c'est surtout qu'il n'y a pas de clean sheet. Le dernier clean sheet, c'est 0-0 contre Rennes le 6 janvier. Et au total, il n'y en a eu que 2 sur le championnat contre Bordeaux et Lorient, qui prennent beaucoup de points.
C'est la clé, ça, dans la course au maintien, la défense. Bien
sûr. De toute façon.
C'est l'une des clés.
Oui, mais on. Tu vois la situation de Nantes aujourd'hui. Moi, je veux bien que le calendrier semble pas. Tu joues pas les 5 meilleures équipes du championnat, mis à part Lyon demain. Non, mais il reste 6 matchs. Tu gagnes pas un match à domicile. Tu montres vraiment des lacunes sur le terrain. Non, mais c'est vrai. Et puis défensivement.
Dire
comment tu veux faire un clean sheet avec les joueurs qu'il y a à Nantes aujourd'hui. Le gardien. Vous l'avez vu le gardien. Alors, je veux bien Lafond, c'est le gardien de l'équipe de France Espoir. Mais si c'est ça la relève. Il va falloir qu'il progresse, le coco. Parce que franchement, Lafond, c'est un match de bon sur 3. T'as besoin aussi d'avoir un gardien qui te rassure à la défense. Il n'y a pas que les défenseurs.
Non, mais c'est l'une des clés. Mais la clé principale, le handicap principal de ces équipes qui sont en difficulté, c'est comment marquer un but. C'est surtout ça qui est compliqué pour eux.
Ah oui, mais si t'en prends et que t'arrives pas à marquer, c'est sûr que ça va être compliqué.
C'est encore plus compliqué que de ne pas en prendre.
Ah oui.
Parce que c'est famélique. que donc je pense que c'est surtout sur le plan offensif et notamment à Nantes.
19h10, Dijon,
n'en parlons pas.
C'est l'heure.
Dijon, n'en parlons pas. Nantes, c'est pas
Dijon. Dijon, n'en parlons encore là. Quasiment Ligue 2. Ah, c'est l'heure du premier tour des stades. 4 infos et vous me dites ce que vous retenez. On va commencer par Lyon, donc l'adversaire de Nantes, dimanche 21h avec un retour important, Edouard G.
Oui, normalement, Oussem Aouar devrait être dans le groupe demain soir pour donné par Rudy Garcia pour le match de dimanche. En tout cas, il est apte, il a fait une séance collective cette semaine et donc il va pouvoir rentrer dans les rotations de cette fin de saison. Mais va-t-il déjà dès dimanche jouer du côté de Nantes? A priori, non. Rudy Garcia a plutôt expliqué qu'il va plutôt aider l'équipe en milieu de semaine. Ça sera en Coupe de France. Et la phrase du jour de Rudy Garcia, c'est à propos de la pression. Nous n'en avons pas. On est quatrième. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive de pire? Rien. Donc il faut qu'on compte que sur nous-mêmes et de prendre le plus de risques possible.
Bordeaux-Monaco, ce sera dimanche 17h05. Des infos compo côté bordelais, Nico.
Oui, avec Gasset qui a tout son effectif à disposition. Hein. Oh. Il n'y a que Otavio qui est blessé, Samuel Kalou aussi. Ouais. Sinon, ils sont tous là. Ben Arfa est revenu physiquement. Bon, il n'a pas été transcendant face à Saint-Etienne. C'est le moins qu'on puisse dire, pas concerné du tout. mais en tout cas, Gasset a tous ses joueurs à disposition.
Oh. Oui,
Allez, un choix.
Le débat sur Bordeaux arrive, ce ne sera pas sur Ben Arfa, sachez-le. Rennes, de son côté, se déplace chez le voisin à Angers. C'est demain à 12h45. Et on rêve d'Europe à Rennes, Pierre-Yves.
Pourquoi pas, ils sont revenus dans le match, hein. Ils sont à 4 points de Lens et à 1 point de Marseille. Et surtout, ils ont pris 10 points sur 12, Jérôme.
Non, c'est vrai, Bruno
Genesio.
Pep revient.
Et puis surtout, ils auront le retour de suspension de Jérémy Doku. Donc ça, ça peut être bien. En revanche, mauvaise nouvelle, hein. On rappelle que Jonas Martin va être opéré de la cheville. Sa saison est terminée. On se demande même si son passage à Rennes a commencé un jour. Hein,
oui, t'as raison. Ouais. Lens, dimanche, est à Brest à 15h. Où on en est niveau Covid, Jean Baumel?
Alors, 7 cas au total, plus Sotoka qui est touché au mollet. Mais l'espoir pour Francaise, il le disait tout à l'heure en conférence de presse, de récupérer un voire trois joueurs, les premiers touchés par le Covid. Ouais. Alors ils sont quatre concernés, c'est Badé, Fofana, Ganago, Mauricio. S'il y en a trois, ce serait le top, ce serait un des quatre que je viens de citer. Sinon un, voire peut-être zéro, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a plus d'espoir de retrouver des joueurs que d'en perdre.
Alors Jérôme, qu'est-ce qu'on retient?
Bah, les quatre Covid à Lens, parce que quand t'as autant de joueurs comme ça, où t'es obligé de te priver. Alors, je te dis pas que Lens est la moins bonne équipe, le groupe est très élargi, mais tu sens l'impact quand même. Donc, et puis Lens n'a plus trop le droit à l'erreur non plus. Il y a une course. On parlait de Rennes qui peut revenir, Marseille. Voilà, Lens doit continuer à avancer.
Dans une seconde, le multiplex Ligue 1 continue autour de la 33e journée. Le changement de système va-t-il porter Lyon jusqu'en fin de saison? Et attention, Bordeaux va-t-il redresser la barre sur ces 6 dernières journées? C'est possible. Nico va nous le dire dans une seconde. À tout de suite.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
19h14, toujours dans Roten Régal, bien sûr. Jean-Michel Larquet, Jean-Louis Tour. Allez, Jean-Louis, on continue notre multiplex avec les correspondants. Ils sont très bons aujourd'hui.
Ça dépend lesquels. Ouais. On est avec Jean Baumel, Pierre Imbleroux.
Quand il n'y a pas Julien Landry, tout de suite.
Édouard G, Nicolas Baumel, que vous venez d'entendre. Mais on ne va pas tout de suite sur Bordeaux, on va sur Lyon. Lyon qui donc est à Nantes dimanche à 21h. Avec ce fameux changement de système, est-ce que ça peut porter Lyon jusqu'à la fin, Édouard?
Eh bien, en tout cas, c'est peut-être l'espoir du staff, parce qu'il y avait déjà un constat, une donnée, l'essoufflement du 4-3-3 et des hommes. Alors certes, ce système avait porté l'OL à l'automne dans la série des 16 matchs, avait même sans défaite, ça avait même porté l'OL en tête du championnat. Et c'est d'ailleurs l'un des arguments de Rudy Garcia à chaque fois. Ben, on utilise ce système qui avait fonctionné, sauf que les hommes se sont essoufflés. Par exemple, Karl Toko Ekambi a marqué que 3 buts en 2021 et une seule passe décisive. Karl Toko Ekambi Tino Kadewere, lui, c'est 3 buts et 0 assist. Et puis, ces hommes se sont aussi blessés, Tino Kadewere récemment. Et Rudy Garcia l'a reconnu aujourd'hui. On a un groupe qui a tendance à s'endormir quand ça va bien. Et parfois, de positionner les joueurs de manière différente, ça met des joueurs en éveil. Cela oblige aussi les attaquants à défendre différemment. Et on l'a vu face à Angers. On a eu ce côté bagarreur, ce dépassement de fonction, ce jeu plus vertical avec Cacré, notamment à la baguette, avec Lucas Paqueta, avec Islam Slimani. Et notamment par rapport à Lucas Paqueta, bien Rudy Garcia a évoqué aujourd'hui son placement, parce que pour lui, c'est moins ce 4-2-3-1 que le placement de Lucas Paqueta, qui était plus proche des attaquants et qui donc a amené plus de désordre, on va dire, dans la défense angevine. Voilà les données aujourd'hui de Rudy Garcia. Il y a le changement, mais il y a aussi le placement de Lucas Paqueta. Est-ce que tout ça va porter les Lyonnais jusqu'à la fin de saison? En tout cas, c'est l'espoir du staff.
Et c'est Jérôme qui va répondre à cette question.
Non, mais moi en fait, dès que dès qu'il y a quelque chose qui change, ça y est, c'est magnifique. Alors déjà, ils ont mis le temps. Il a mis le temps.
Réclamé, ce changement, quand
même. Il a mis le temps, Rudy Garcia, à changer quelque chose. Après, c'est plus le choix des hommes, plus que du système. Alors après, on peut jouer sur les mots, en effet. Mais tu pourrais dire aussi, par moment, c'est un 4-3-3 avec Paqueta qui est dans le milieu de terrain. Et,
oui, après, là, le but, c'est que Paqueta soit plus haut.
Mais Paqueta, dans tous les cas, même quand il jouait en 4-3-3, il était capable d'aller plus haut.
Oui, mais et il n'y allait pas trop.
Mais si, on l'a vu proche de Depay. Il a beaucoup, fait des passes décisives à Depay. Mais si, arrête, me dis pas beaucoup. Bah, dire, c'est juste une question de d'appréhension du match. Comment tu comprends avec
les... Je vous rassure, il y a des milieux de terrain qui ne voient jamais la surface de réparation.
Mais non, mais arrête. Mais Paqueta, non.
Ce n'est pas le cas de Paqueta.
Mais Paqueta, on le voit depuis le début. Après que, en effet, Depay est passé.
Il a une place à Slimani, c'est pas rien quand même.
Slimani en pointe. Voilà. Depay, il passe côté gauche. Bon, bah écoute, avant, t'avais Toko Ekambi côté gauche. T'avais Kadewere à droite et Depay dans l'axe. Là, il met Slimani. Slimani, il ne va pas le mettre, il est droit ou il est gauche. Et encore, des fois, il a essayé. Donc, son poste, c'est dans l'axe.
Il met
pas Depay avec un changement de système vraiment, réellement. Tu veux que je te dise ce que c'était?
Ouais.
C'était Depay avec Slimani dans l'axe.
Un vrai 4-4-2.
Et jouer à quatre milieux, sauf que là, en plus, Cacré et Edouard nous le disaient. Cacré, il comprend pas. C'est son joueur fétiche, son petit chouchou. C'est vrai que dernièrement, du moins sur le dernier match.
C'est le chouchou d'Edouard plus que de Garcia.
Ouais, d'Edouard.
Oui,
oui. Bah oui, mais Cacré, t'as fait énormément de bien sur le dernier match.
Bien
outre
sûr.
Le changement de système, c'est les hommes qui sont éclatés.
Il a aussi sorti Thiago Mendes.
Et puis, parce que c'est un changement d'homme. Et puis après, il faut pas se leurrer. Souvent, quand t'as ce collectif-là avec des joueurs comme Cacré qui font du bien au milieu de terrain, c'est les individualités qui font la différence. Quand t'as un Paqueta qui est inspiré comme il a été le dernier match, comme Depay, ah bah c'est sûr que c'est plus facile pour Lyon de gagner des matchs de Ligue 1. Donc
Jean-Louis, pourquoi oui, c'est s'énerve? C'est Nantes en face, hein. Faut quand même, ça devrait passer, je pense.
Oui. Tu veux dire, pas besoin de faire 5 minutes sur la tactique?
Non, mais je pense que ça devrait aller. Paqueta qui avait marqué son premier but en Ligue 1 contre Nantes.
Bravo, et en l'occurrence, et je dirais bravo Juninho pour Paqueta, parce que Garcia n'en voulait pas, puis à l'arrivée, c'est son homme phare aujourd'hui.
Très bien.
Derrière, on a le match face à Lille et face à Monaco. Hein, donc, c'est pour ça que c'est important de roder le système.
Ouais, bah déjà qu'il gagne celui-là avant de penser aux
exactement.
Autres. Parce que...
Attention, messieurs, Bordeaux. Bordeaux reçoit Monaco dimanche à 17h. Attention, là.
Je reviens dans la région, là, c'est bien.
Là, ça. T'as pas un teasing, il n'y a pas un truc avant, non
là. Non, là, soyez bien concentrés. Bordeaux peut-il redresser la barre sur ces 6 dernières journées? Parce qu'il s'est passé quelque chose de très important cette semaine, Nico.
Ah bon? J'entends déjà vos rires, Moko. Cœur,
c'est quoi?
Mais j'ai de l'espoir, les gars. J'ai de l'espoir parce que, bon, il y a eu la claque à Saint-Etienne, 4-1, des joueurs et un staff.
Ils ont perdu à Saint-Etienne? Bon.
Ouais, mais bon, c'est une grosse équipe, explosé. Et franchement, on a senti des joueurs et un staff technique complètement désabusé, mais comme jamais à Bordeaux. Et franchement, on avait très peur en début de semaine sur la fin de cette saison. Mais il y a eu un événement qui s'est passé. Alors, ils n'ont rien révolutionné, hein, les Girondins, mais il y a eu une grosse réunion.
Ils ont fait
mardi.
Le réunion?
Ah, ils ont fait une énorme réunion.
C'est capitaine. Pas juste un printemps qui a parlé quand même.
Non, mais alors, il y avait le staff, il y avait les joueurs, mais il y avait tous les salariés aussi qui touchaient au groupe pro. Et pour la première fois à Bordeaux depuis bien longtemps, en tout cas, c'est ce qui ressort des infos qu'on a de cette réunion, c'est qu'on a vraiment crevé les différents abcès. Les joueurs qui sont en conflit, alors je vais pas vous dire que ce sont devenus les meilleurs copains du monde, mais au moins ils ont fait un pas les uns envers les autres. Il y a une sorte de pacte qui s'est créé sur les 6 derniers matchs.
Ah, oui.
Il y a des cadres qui sont sortis un petit peu du bois pour parler. C'est le cas notamment de Benoît Costil, qu'on va écouter. Benoît Costil, ça faisait un an et demi, alors que c'est l'ancien capitaine de Bordeaux, qui venait plus en conférence de presse, et je vous l'ai dit plein de fois dans le multiplex de Rotten Regal, parce qu'il se protégeait, parce qu'il avait mal vécu certaines choses. On va écouter le discours fort de Benoît Costil.
Ah ouais. Il faut avoir ce déclic et arrêter un petit peu de s'apitoyer sur notre sort. Croyez-moi qu'on n'a pas toujours été tendre avec nous-mêmes dans nos discussions. Et à un moment donné, il est peut-être temps
c'est
d'arrêter
énorme.
D'être
c'est
un
énorme,
cire,
ce qu'il dit.
De voir les choses un peu avec un peu plus de positivité. L'union fait la force, donc rassemblons-nous. On est ensemble, on va s'en sortir ensemble et on va faire ce qu'il faut. Et la saison prochaine, Bordeaux sera en Ligue 1.
Hey, il vous donne pas envie de se battre, Benoît Costil, là,
c'est
les gars.
Venir avec lui, c'est parti.
C'est le professeur Raoult.
Non, bon, alors, ce qui s'est aussi passé, c'est que la direction a recadré quelques cadres, mais en tout cas, ce qu'on nous a dit, c'est que l'ambiance de travail à l'entraînement était complètement différente de ces dernières semaines, et on a vu un gars assez souriant comme jamais en conf. On se dit qu'en interne, non, mais c'est vrai, capitaine, des fois, il y a des signes, vous le savez, des fois,
arrête,
un petit déclic comme ça. Eh ben, moi, j'y crois, les gars.
Jean-Michel, j'ai eu une info.
Oui, quoi?
Une info. Ben, apparemment, ils ont fait un feu. ils sont mis autour, ils sont tenus la main.
Et ils ont mangé les chapeaux.
Et depuis, ça va mieux.
Il y avait la guitare,
et depuis, ça va mieux.
Voilà, c'est ça.
Et tous les salariés ont même mis des chaussures de foot pour vraiment que ça soit un groupe soudé. T'as l'impression qu'ils jouent avec.
Mais quoi, vous y croyez pas, ce genre de réunion?
Il y a Francis Lalanne qui a fait 2-3 chansons. Il paraît que c'était super sympa.
Non, Obispo.
Mais non, c'est Obispo à Bordeaux.
Ah non, mais là, il préfère Francis Lalanne parce que lui.
Il est occupé, la Francis Lalanne.
Lui, il connaît le foot.
Il
sent les coups.
Non, mais donc, ça sert à rien, ce genre de réunion.
Ah bah rien, bah c'est que dalle.
C'est franchement, réunion sur réunion, sur. T'as l'impression
qu'à
Bordeaux,
il y a des joueurs.
Non, mais... Ah oui, mais
c'est ça le plus important.
Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis d'essayer de me défendre, même si tu crois pas. Même si tu crois pas.
Et la mascotte était là ou pas? Parce que ça, c'est important.
Je vais être poli, un coup d'épée dans l'eau. C'est tout, hein.
Ramasser la mascotte.
Mais vous allez voir. Non, mais alors là, je prends le pari.
J'étais prévenu quand même.
Ouais. Non, mais j'étais préparé mentalement. Mais franchement, je prends le pari. Ouais. Et je reviens la semaine prochaine dans Rotten Regal. Ouais. Dans le multiplex, vous pouvez vous moquer de moi si jamais Bordeaux explose complètement contre Monaco. Je suis sûr que dans les attitudes, on verra des choses différentes.
Et que Costil dise qu'il va être en Ligue 1, j'espère quand même. qui va prendre un point.
Ah non, mais parle pas de Costil, franchement c'était génial.
C'est un grand gardien de but, hein.
Un gladiator.
Quel leader.
Pourquoi il parle pas tout le temps? Mais pourquoi il a attendu un an et demi pour parler?
Mais il te l'a dit, il se protégeait.
C'est quand même génial, quoi.
Bon, allez, je m'en
fous. Oh, quel costard, dis donc. Je le mets pas le ministre.
Je crois qu'elle va être sympa, ma conférence de presse d'après match, quand ils vont tous me retrouver.
Moi, franchement, aussi, je mets Premier ministre sur le
coup. Ah ouais. Bon, alors, on n'a rien contre les Girondins.
Il n'y a plus de virus en une semaine, hein. Je peux te dire, si tu le fous, lui.
Contre Costil, contre les Girondins, etc.
Non, pas du tout.
Non, rien du tout. Non, allez. C'était contre Nico, surtout. Pas contre le club ou les joueurs. On y va.
J'embrasse Alain. Alain Roche, ouais, je lui souhaite bon courage.
Bah, bien sûr. Pas Ghislain Printemps?
Hein?
Non, il n'est plus là, Ghislain.
Non, mais attends,
il est toujours là.
Ah oui, c'est lui qui a fait le feu.
Jérôme. Ah ouais.
Et puis il est pas avec des briquets, hein. Je veux te dire, il n'y a rien. Ouais, il sait faire le feu. Ah ouais, attends.
Gigi, quoi.
Gigi qui est le médiateur. Hein.
Alain Giresse était là aussi.
Non, il est médiateur.
Non, il était pas là. Mais c'est vrai qu'il essaie d'être le médiateur, notamment dans le conflit qu'oppose la direction.
Alors, on pense très fort à Gigi.
Ouais. Moi, j'embrasse Duga aussi parce que quand il entend ça, on les voit regretter de pas avoir fait la table ronde.
Il était peut-être là, je sais pas, Nico, il était peut-être là.
Ah non, Duga était pas là. Ouais, non,
il était au golf.
Bon, allez, on y va. Deuxième tour des stades, 19h24. On reprend sur nos infos sérieuses après cet intermède Lorsi. Donc, Saint-Etienne au parc, dimanche à 13h. Édouard, j'ai des nouvelles des blessés.
Eh bien, Jesse Moulin, Bajic, Riyad Boudbouz, Anthony Moness ne seront pas là. Il y a un doute sur Ivan Neyou pour un Claude Puel qui veut jouer les arbitres pour le titre en fin de saison. Alors, il a déjà joué contre Monaco, il a déjà joué contre Lyon. Il joue contre Paris ce week-end et à Lille le 11 mai prochain. On aime jouer ces matchs prestige. En un mois, on va affronter Paris et Lille. On doit avoir l'ambition de jouer les arbitres pour le titre, dit Claude Puel aujourd'hui.
Angers-Rennes, c'est demain 12h45. Côté Angevin, c'est la fin de l'ère Moulin cette saison. Son départ a été officialisé et ça en inquiète certains au club, Pierre-Yves Leroux.
Bah oui, c'est le dernier mois. On est entré dans le dernier mois de l'ère Moulin. On rappelle que Piqueux est parti, que c'était le triumvirat avec Chabanne qu'on mettait souvent en avant. Donc ce club va devoir se réinventer et évidemment, ça inquiète un certain nombre de personnes parce qu'après 10 ans avec Stéphane Moulin, et on se dit que va devenir le SCO qui sera sans Fulgini, lésion au quadriceps pour le match face à Rennes et aussi pour le match de Coupe de France contre Paris.
Les infos sur la compo lilloise pour ce soir face à Montpellier, Jean Baumel.
Bah, la bonne nouvelle, c'est que Jonathan David est dans le groupe, hein. Je pense pas qu'il sera titulaire parce qu'on pensait le perdre pour un petit moment suite à la grosse blessure qu'il avait eue face à Gueye, face au Paris Saint-Germain. Puis il y a seulement vraiment deux véritables absences, c'est Liadji et Pied, des joueurs qui sont pas hyper importants. Donc pour Christophe Galtier, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Voilà.
Il y aura le choix en attaque. C'est pas important, Liadji?
Moyenne. Ouais, il joue pas énormément.
Ah, hein. Je pensais que c'était une pépite. Ce sont...
Alors, dernière info, on retourne à Bordeaux, donc Bordeaux-Monaco.
Ah oui,
la réunion, je vous dis que c'est la crise, et c'est la crise en quelques chiffres. C'est le plus faible total de points de l'histoire des Girondins de Bordeaux après 32 journées à ce stade de la compétition.
C'est fini, c'était avant ça.
Depuis 20 ans, jamais Bordeaux n'avait connu autant de défaites à ce stade de la compétition. c'est la plus, deuxième plus mauvaise défense du 21e siècle à Bordeaux. Heureusement, il y a une réunion cette semaine. Quoi.
Merci.
Voilà, on est rassuré.
Donc, à faire une réunion, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'on retient, Jérôme?
Angers. Angers parce que
la fin de l'air moulin.
Ouais, la fin de l'air moulin. Et puis en plus, ça tombe bien parce que peut-être que Antoine Camboire sera sur le marché, donc au moins qu'il fasse signer direct un contrat.
Eh bien, merci Jérôme. On fait donc fâcher avec la moitié de la Ligue 1 en 10 minutes. Merci les gars, Jean Baumel, Édouard G, Pierre-Yves Leroux et spécialement Nicolas Paul.
Bonne soirée à tous.
Je sais pas si ça a été très constructif mon intervention. Je suis pas sûr.
Il y a une réunion.
Non, la réunion entre nous, ce sera au resto avec Jérôme, bien sûr.
Bien évidemment.
C'est là qu'on la fera. Bon week-end messieurs, la 33e journée de Ligue 1 en intégralité sur RMC tous les soirs évidemment, la course au titre avec vous messieurs en région, toutes les infos, c'est tous les vendredis également, donc dans Rotten Régal. Dans une seconde le multiplex européen, Benzema prolonge au Real et on vous donne des infos de City à quelques semaines du match face au PSG, à tout de suite.
RMC 18h-20h, Rotten Régal, Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h30, allez, la dernière demi-heure de Rotten Régal, toujours sur RMC, bien sûr, avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Allez, Jean-Louis, maintenant, c'est le multiplex étranger. Et vous pouvez. Bien sûr, après, c'est le quiz.
Voilà, vous pouvez vous inscrire donc au 32-16 pour faire équipe soit avec Jérôme, soit avec Captain. On y va, le foot européen.
RMC, Rotten Régal. Multiplex européen.
Avec nous ce soir, Julien Laurence en Angleterre. Salut Julien.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut à tous.
Et Fred Hermel en Espagne. Salut Fred.
Hola chicos.
Salut Fredo.
Tiens, hola, juste avant de partir sur vos actus, messieurs, info de nos confrères de l'équipe, la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui débutera après 2024 serait sur le point d'être entérinée. Ah. Donc la fameuse nouvelle formule avec 36 clubs au lieu de 32, cette phase de poule où on joue pas contre tout le monde en aller-retour.
Voilà. Ah, le système suisse.
Je crois, oui.
Oui, c'est ça.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en tout cas, ce qu'il faudrait retenir de ça, c'est qu'il y aurait trois qualifiés directement pour le foot français. Voilà.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Donc, voilà, les détails à peaufiner et à entériner très bientôt. Ce qui devrait normalement calmer les envies de Super League des grands
totalement
clubs.
Totalement même.
Voilà. C'est le but en tout cas de cette réforme.
Exactement.
On en a parlé un peu dans vos pays ou quelle est la tendance en Angleterre, Julien? Autour de ce...
On a parlé effectivement, ouais. On en a parlé un petit peu forcément, oui, surtout avec l'histoire de la Super League, quelques clubs de Première League qui sont contre d'ailleurs la nouvelle formule de la Ligue des Champions aussi. Donc c'est vrai que ça a plutôt fait débat, encore une fois ici.
Et en Espagne, Fred,
c'est un sujet très très important. On sait que le leader de la fronde internationale, en tout cas européenne, contre la Super League, qui s'appelle Monsieur Tebas, le président de la Liga, et que le leader en faveur de la Super League, même s'il le dit pas, c'est Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Donc, la question, c'est l'argent que vont recevoir les clubs. En fait, parce que les clubs qui ont envie d'être dans la Super League, les clubs qui seraient fondateurs de la Super League, estiment que l'UEFA garde trop d'argent et que, en fait, que les revenus, que eux prennent des risques, eux achètent des joueurs, font des stades, etc., mais que la majorité de l'argent va à l'UEFA, d'après ce que pensent ces clubs-là. Ouais. Donc, je pense qu'il est possible d'avoir des contre-offensives de la Super League. Je vois pas pourquoi cette annonce empêcherait les clubs fondateurs de la Super League d'essayer de mener à bien leur projet, parce que la base, c'est pas le format, c'est l'argent que récupèrent les clubs, parce que ils estiment qu'aujourd'hui c'est l'UEFA qui garde la plus grosse partie.
On verra l'évolution de cette Ligue des Champions et si ça calme les ardeurs ou non. L'actu de vos clubs, Manchester City, Julien, évidemment on va suivre avec beaucoup d'attention désormais Manchester City dans les 10 jours qui viennent jusqu'à la demi-finale aller de Ligue des Champions face au PSG. Ce week-end c'est match de cup, demi-finale à Chelsea.
C'est ça, à Wembley contre Chelsea, mais à Wembley, effectivement, les deux sont à Wembley, l'autre c'est Leicester-Southampton, mais effectivement, gros match pour Manchester City, rapidement sur Chelsea, qui est aussi qualifié en demi-finale, qui va affronter le Real Madrid de Fredo. Pour Thomas Tuchel, c'est un gros match, c'est la première fois qu'il va se confronter à Pep Guardiola, depuis qu'ils ont tous les deux quitté l'Allemagne. Tuchel qui, on l'a déjà répété dans l'émission plusieurs fois, mais fait un début de carrière à Chelsea assez exceptionnel, lui qui a déjà battu Diego Simeone, qui a déjà battu Jurgen Klopp, qui a déjà battu Carlo Ancelotti, qui a déjà battu José Mourinho. Là, il va se affronter donc Pep Guardiola. On va voir quelle approche il va avoir du match, dans quelle structure, quel choix tactique il va faire, quel plan de jeu aussi, qui pourrait d'ailleurs peut-être aider le PSG selon le résultat du match et selon la performance de Chelsea donc demain contre City à Wembley. On va voir. C'est vrai qu'il a apporté une stabilité défensive, ça c'est sûr, par rapport à ce qu'avait fait Lampard avec Chelsea. On se rappelle notamment de l'humiliation à domicile de Chelsea contre Manchester City en championnat et cette victoire 3-0, le génie absolu de Kevin De Bruyne notamment et une équipe de City son numéro 9, qui pourrait être le cas encore une fois contre le PSG et contre Chelsea demain aussi. Donc à voir comment Tuchel approche et s'il y a peut-être pour le PSG en tout cas et pour nous quelques indices à comment arrêter cette machine de Manchester City qui est donc quasiment inarrêtable, même si elle a perdu contre Leeds le week-end dernier en championnat avec une équipe remaniée certes, même si elle avait perdu contre United dans le derby aussi, là en revanche avec une vraie équipe type. Donc à voir comment effectivement Tuchel va approcher cette rencontre contre Pep Guardiola.
Ouais, surtout que en plus il y aura pas de décompression de la part de City. C'est vrai que c'est logique en championnat. Alors je te dis pas qu'ils l'ont cherché contre Leeds parce que c'est quand même incroyable de perdre ce match avec autant de maîtrise et autant d'occasions. Mais bon, c'est la magie du football. Tu sentais quand même une décompression en championnat qui a montré certaines limites sur la double confrontation aussi contre Dortmund où ça a pas été si facile que ça. Là, demain, c'est un match. Voilà, tu peux pas avoir de la gestion. Forcément, ils sont focalisés. C'est des compétiteurs. Ils ont envie de tout gagner. Donc, on verra vraiment si c'était juste de la gestion sur les dernières semaines et que là, City est reparti, ou si ils sont un petit peu dans le dur dans leur façon de fonctionner. Si c'est le cas, vraiment, Chelsea a un coup à jouer. Hein.
Ouais, c'est vrai. C'est une autre étape aussi dans la chasse au fameux quadruplé jamais réalisé dans l'histoire du football anglais, avec donc cette demi-finale demain, la finale de la Coupe de la Ligue, elle aussi qui aura lieu avant le match aller contre le PSG, puisque c'est donc le week-end prochain contre Tottenham, encore une fois à Wembley. Entre temps, il y aura un match de championnat contre Aston Villa en milieu de semaine prochaine. Ensuite, bien sûr, la demi-finale contre le PSG. Et puis, bien sûr, le championnat qui est pas quasiment bouclé. Il leur faut encore 3 victoires sur les 7 derniers matchs. Ouais. Mais voilà, ce quadruplé incroyable. Ce serait incroyable. C'est bouclé, capitaine, c'est sûr, mais ce serait quand même un quadruplé assez phénoménal s'ils arrivaient à aller jusqu'au bout dans toutes ces compétitions.
Mais on a été sévère sur City là, dans la double confrontation. Au match retour, j'ai trouvé quand même City plutôt bon parce que les Allemands ont été bons à Dortmund. Moi, je les ai trouvés bons. Il y a eu de bonnes choses et il fallait une bonne équipe de City pour s'en sortir. Donc,
il faut que tu sois meilleur défensivement. Il faudra être meilleur défensivement que Dortmund, capitaine, parce que c'est là où finalement Dortmund a eu des soucis, même s'ils les ont plutôt bien contenus. Ils étaient très agressifs au milieu, ce qu'il faut faire contre Manchester City. Il faut être très bien organisé et très bien structuré parce que tu sais qu'ils jouent dans les demi-espaces. Ils attaquent souvent avec donc 5 joueurs sur toute la largeur du terrain, entre tes ailiers, tes milieux relayeurs qui entrent un petit peu à l'intérieur et ton numéro 9 ou faux numéro 9 devant. Ces 5 là. Et donc c'est vrai qu'il faut être très bien coordonné, très bien se parler, très bien communiquer pour te passer les joueurs au marquage notamment, selon les zones dans lesquelles ils évoluent. Mais après, défensivement, il faut faire des matchs quasiment parfaits parce qu'ils vont forcément se créer des occasions. Et si t'as pas un grand gardien, si t'as pas des très bons latéraux et des défenseurs centraux qui sont aussi dans le bon tempo à chaque fois, dans le bon rythme, c'est là où tu souffres le plus finalement.
Voilà.
Ouais, exactement. Bah,
très bien. Merci Julien.
Merci.
Non, je croyais que Jean-Michel voulait. Parce que tu étais en conversation avec Jean-Michel et je pensais qu'il voulait en rajouter.
Jean-Michel n'avait pas envie de te répondre.
Julien,
il n'a pas envie de te parler.
Dans sa conclusion, il a dit il faut un bon gardien, il faut une bonne défense centrale, des bons latéraux, un bon milieu de terrain et des très bons attaquants.
Et puis un gros collectif.
Parce que capitaine, tu ne peux pas comparer.
Non, mais c'est.
On va pas comparer Kylian Navas et Marvin Hitz, par exemple, tu vois, ou même Matteo Morel, l'arrière droit de Dortmund, et un Florenzi à son meilleur niveau, par exemple. C'est pour ça, voilà.
Très bien, merci Julien. Bravo Julien. C'était excellent. Nous, on a trouvé ça excellent, Jean-Michel un peu moins.
Moi, je vais à 9 sur 10.
Bon week-end.
Salut.
Alors, l'Espagne et l'info du jour, c'est la prolongation de Benzema au Real, Fred ?
Oui, enfin, c'est un peu un secret de Pulichinelle, quoi. Enfin, j'ai pas trop compris la une de Marca, en fait.
Il le savait depuis longtemps, Fred.
Bah, non, mais
bien sûr, ça fait 3 mois qu'il nous le dit.
Sur les antennes, j'ai toujours dit, sur notre antenne, dans nos différentes émissions, quand il y avait la rumeur sur Lyon, moi, j'ai toujours dit que Benzema avait décidé et voulait terminer ses carrières au Real Madrid. Donc, cette prolongation, elle est tout à fait logique. D'autant plus que, en fait, Marca ne dit pas que c'est fait. Marca dit que Benzema a envie de rester, que le club a envie qu'il reste et qu'ils vont le prolonger cet été. Bah, je vais dire c'est normal puisque le Real Madrid, la règle est de contrat de Benzema se termine en 2022 et c'est un an avant, au mois de juillet, que commencent les négociations. Ouais. On sait qu'il y a un intérêt des deux côtés de continuer. Donc voilà, ça ne fait que confirmer ce qui est évident. Benzema a un niveau exceptionnel, on va pas revenir là-dessus. Le Real est content de Benzema. Après, je le vois mal, le Real Madrid annoncer la prolongation de Benzema maintenant, alors que Ramos.
Ramos c'est pas fait, bien sûr.
Lucas Vazquez c'est pas fait, et Modric c'est pas fait, et eux leur contrat il se termine dans 3 mois.
Eh oui, c'est ça. Ouais.
Donc, deux mois et demi. Donc voilà, c'est ravi. Et puis c'est mon ami Pablo Polo qui a signé cette formation dans Marca, donc je suis ravi qu'il l'ait dit. Mais je veux dire, c'est une évidence. Ce n'est pas un scoop que d'annoncer que Benzema continue. Ouais. Donc en tout cas, ça ne fait que confirmer que l'idée de revenir à Lyon peut exister, mais c'est pas pour maintenant.
Revenons sur la course au titre.
Même si lui veut rester tout le temps.
En France, la course au titre est passionnante. En Espagne, elle l'est d'autant plus. Aussi, ouais. Il y a 2 points d'écart entre le Barça 3e et l'Atlético 1er. Il y a le Real entre les deux. Et il y a encore 8 journées, en Espagne. C'est beaucoup, Nous, on en a 6, mais il y en a 8, c'est beaucoup encore en Espagne.
C'est beaucoup, avec notamment un match qui va être hyper important, qui va être un Barcelone, Atlético de Madrid. Donc voilà, donc l'Atlético en fait a encore son destin entre les mains.
Bah oui, puisqu'ils sont premiers, c'est sûr.
Ils sont premiers et en plus voilà, c'est important à dire.
Belle remarque.
Tu nous as fait une Nico Follower.
Mais
qui dit à tout le monde que t'es le meilleur correspondant étranger là, franchement, tu m'as pas vendu du rêve.
C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, je vais vous donner une information, un scoop, c'est que le Real Madrid a la différence de but particulière qui compte en Espagne, favorable contre l'Atlético et contre le Barça.
Donc je balance.
Voilà.
Et alors moi je balance aussi que ton Barça Atlético c'est le 8 mai. Donc voilà, il y a 4 journées avant ce match-là.
Et là ce week-end c'est quoi les matchs ?
Alors c'est derby de Madrid donc face à Retafe pour le Real. Ouais, c'est pas le derby de Madrid qui fait rêver mais quand même c'est Retafe.
Ouais, mais c'est compliqué. Retafe c'est toujours chiant.
Ouais, Retafe.
Et c'est Retafe ?
Ouais. Oui.
Ouais, c'est toujours.
Pourquoi ? Qu'est-ce que tu connais le stade là-bas ?
Parce que ça pourrait être au Real.
Oui, tout à fait.
Oui, bien sûr.
Bon, les questions.
Jean-Louis,
tu fatigues en fin de parcours, là, ou quoi?
Ah, mais pourquoi il tombe dessus? Atlético Eibar. Ça, c'est demain à 16h15.
Ouais, celui-là. Ah,
ça, c'est gagné.
Et Barcelone-Grenade.
Malheureusement.
C'est reporté parce que il y a la finale de la Coupe.
Eh oui.
Eh oui, d'accord, ouais.
Ah oui, Barcelone-Grenade s'est reporté, effectivement.
Voilà. Oui, voilà. Parce qu'il y a Athletic Club de Bilbao contre Barcelone à 21h30 demain soir. La finale de la Coupe au stade de la Cartuja de Séville, le stade olympique. Donc, ça va être une belle finale quand même, hein. Ce sont les deux clubs qui ont le plus de Coupe du Roi. La Coupe du Roi, et même avant, quand ça s'appelait la Coupe Généralissime. Ça va être sympa, ouais. Vous savez, il faut faire l'information, quand il y avait un dictateur en Espagne.
La Coupe du Roi d'Espagne qui oppose.
Ah, l'Espagnol va nous parler.
Un Catalan contre un. Non, mais c'est
pas nous en Espagnol, non?
La Coupe du Roi qui oppose un Catalan à un Basque, ça risque de.
Mais alors, on va dire, pour une fois, on va pas regretter qu'il n'y ait pas de public, parce qu'au moins, l'hymne espagnol ne sera pas sifflé dans le stade, comme ça avait été le cas. Ouais. Enfin, au moins, c'est déjà ça.
Alors, la Coupe du Roi, c'est super, pas de problème. Je reviens juste sur ma course au titre.
Comment t'es ?
Non, mais.
T'aimes que les gros trucs, toi. Enfin, tu vois, une Coupe du Roi, c'est sympa,
quoi. Non, mais bien sûr que c'est sympa.
Les gros trucs, oui.
Non mais arrêtez, non Fred, tu nous dis depuis longtemps que tu as confiance en l'Atlético pour être champion. Tu nous as annoncé ça depuis un moment.
Ça il y a 2 mois.
Ouais, voilà, sauf que ça a un peu évolué.
Est-ce que tu as changé d'avis ou tu restes confiant?
La tendance n'est pas très favorable.
Non.
Quand même.
Ah non.
La tendance de l'Atlético n'est pas favorable du tout. En plus, il y a ce match à Barcelone. Donc non, l'Atlético, c'est quand même, pour moi et pour tout le monde, en tout cas en Espagne, l'énorme déception de la saison. C'est-à-dire qu'il y a eu le pire match que j'ai vu depuis des années, qui a été contre Chelsea, on s'en souvient tous, avec six défenseurs. Je pense que ça va marquer l'image de Simeone pendant un moment. Et puis, l'Atlético, il y a 11 journées, avait 10 points d'avance et un match en retard.
Avec un match en retard, ouais.
Donc, virtuellement, 13 points d'avance. Et ils ont laisser fondre comme neige au soleil cette avance. Et donc, et l'autre jour, par exemple, le Real avait repris la tête en gagnant contre le Barça. L'Atlético se déplaçait à Séville contre le Betis. Ils n'ont pu accrocher qu'un petit point.
Ils récupèrent des joueurs là.
Ça revient tout doucement. Mais c'est pas top. Ah. Physiquement, ils sont. Après, c'est un peu comme tout le monde. Quand Zizou dit que les joueurs sont sur la réserve, voilà, ils sont tous limite, quoi. Voilà.
Oui, de toute façon, on est dans une période. On en a déjà parlé. Là, c'est au mental et il faut s'accrocher.
Exactement. Voilà, et puis, puisque Captain Larkey me cherche et qu'il nous parle de ses goûts pour l'espagnol, on pourrait écouter cette démonstration d'interview en espagnol de
magnifique.
Tiens, j'enlève mon casque. Les projets qui étaient vendidos, le Monaco, hay una diferencia frente a la realidad.
C'est très bien.
C'est très bien. On est arrivé à la fin de la question. On en avait
tu l'as fait avec le dictionnaire sur les genoux ou tu l'as fait comme ça?
Il n'y a qu'une erreur, c'est proyecto. J'ai dit proyecto. Voilà. Project.
Et tu me fais un compliment, c'est gentil. Je suis en train de lire ton livre, c'est ça la France.
Oui.
Et je m'endors tranquillement en ayant la conscience tranquille, Fred.
Oh bah c'est super. Voilà. Son bouquin, il te fait dormir, c'est ça que tu dis.
Ah ouais,
là, super. Je m'endors après avoir lu 3 ou 4 chapitres.
Très bien. Allez, merci Fred.
Merci les amis.
Merci Fred.
À très vite.
Bonne soirée. Bravo Fred.
Et n'oubliez pas, l'Atlético a son destin entre
les mains. C'est vrai que c'est important de le rappeler.
La différence de but.
Bravo Fred. Dans une seconde. L'affrontement, le réel affrontement de la semaine, c'est le quiz de Roten Régal.